Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur l'onction du Saint-Esprit dans la vie de Pierre. Dans Actes chapitre 3 et le verset 1, nous lisons « Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée Label, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu et il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le monde, tout le peuple, étonné, accourut vers eux au portique dit de Salomon. Amen. Nous connaissons bien l'apôtre Pierre et son caractère impulsif, toujours le premier à se manifester, quelquefois très inspiré, quelquefois plus maladroit, inspiré quand Jésus demande « Qui suis-je ?» au dire des hommes. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie ou un des prophètes. Et puis Pierre ouvre la bouche et donne une parole extrêmement inspirée. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Inspiré. Il parle spontanément, souvent il se met en premier. Quand Jésus vient à leur rencontre alors qu'il y a la tempête et qu'il le voit au loin et qu'ils comprennent que c'est Jésus, le premier à sortir de la barque, le seul à sortir de la barque, c'est Pierre. Il va marcher sur l'eau à la rencontre du Seigneur. Mais aussi, quand Jésus se fait arrêter, le seul qui prend l'épée pour défendre Jésus, c'est Pierre. Il prend une épée et il essaye de couper la tête du garde qui vient arrêter Jésus et il lui coupe l'oreille, maladroitement. Mais c'est Pierre. Pierre est toujours impulsif. Pierre est aussi celui qui a renié Jésus. Donc, on voit qu'il a des hauts et des bas. Mais le jour où il a été baptisé du Saint-Esprit, dans Actes chapitre 2, il a été transformé pour devenir l'apôtre Pierre, un homme de Dieu, et il a commencé à prêcher la parole de Dieu. En fait, lui qui n'avait pas fait de grandes études, qui n'avait pas une grande instruction, il s'est mis à prêcher devant des foules, et des foules se sont converties. Alors je dis, aujourd'hui encore, nous avons besoin de la même onction, l'onction qu'a reçue Pierre, l'onction qu'a reçue Jean, l'onction qu'a reçue Philippe, ou toutes ces personnes que nous voyons dans la parole de Dieu, eh bien nous pouvons nous attendre à recevoir la même onction parce que c'est le même Saint-Esprit qui agit encore aujourd'hui. Donc ouvrons nos cœurs, ouvrons notre esprit à l'Esprit de Dieu afin qu'il nous remplisse et que nous puissions vivre aussi l'onction. Je voulais voir quelques aspects de l'impact de l'onction dans la vie de Pierre et quelles leçons on peut en tirer. La première chose que je vois au verset 1, c'est d'abord une onction qui vous pousse à la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Parce que Pierre n'a pas toujours été un homme de prière. Il a eu du mal à prier. Lorsque Jésus est arrêté dans le jardin de Gethsémané, lorsqu'il prie plutôt avant d'être arrêté dans le jardin de Gethsémané, il demande à Pierre, Jacques et Jean de venir avec lui. Et la Bible dit qu'ils n'ont pas pu prier même une heure avec lui tellement ils étaient fatigués, tellement ils étaient harassés, mais tellement le combat était puissant, tellement ils manquaient de force. Et en fait, ils n'arrivaient pas à prier. Ils avaient du mal à prier. Et la plupart des chrétiens Sans l'onction, vous aurez du mal à prier. La prière, ce sera un fardeau. Vous allez prier peut-être occasionnellement, peut-être une ou deux fois dans la semaine, si vous y pensez, si vous avez le temps, ça ne sera pas une priorité dans votre vie. Mais vous verrez très vite que la prière peut devenir un fardeau, quelque chose de lourd, un petit peu comme eux qui, voilà, ils n'avaient plus d'énergie au moment de la prière. Par contre, les mêmes personnes, si vous leur dites « Allez, on va au restaurant », tout d'un coup, il y a une énergie qui leur vient. Les mêmes personnes. Mais pour la prière, comme Pierre, il n'y a plus d'énergie. Parce que sans l'onction, vous n'avez pas l'énergie. Vous n'avez pas la motivation, vous n'avez pas le zèle pour Dieu. Et nous devons arriver en tant que chrétiens à un niveau où nous prions tous les jours, où nous avons dépassé ce cap de la prière occasionnelle, de la prière une fois si on y pense, ou si on a le temps, mais on le met en dernière chose à faire. Or, ça doit être la première chose à faire quand on se réveille, c'est penser à Dieu, prier Dieu, le mettre en priorité dans notre vie. Parce que si nous faisons des jours de repos, c'est très bien pour reposer le corps, mais en tout cas, notre âme, elle se repose en priant. Elle est bénie en priant. Voyez, si vous pensez « Ah, je suis trop fatigué, je ne vais pas prier aujourd'hui, je ne vais pas prendre de temps avec le Seigneur », c'est une erreur. Parce que lui, l'ennemi de notre âme, lui, il ne prend jamais de jour de repos. 7 jours sur 7. Donc si vous dites « Moi, ce jour-là, ben, ce n'est pas la peine, je ne prie pas », ben en fait, lui, il a prévu des plans, il a prévu des attaques ce jour-là. Donc nous devons prier tous les jours et arriver à ce niveau. Sans l'onction, la prière va devenir un fardeau. Si vous n'avez pas l'onction, c'est peu probable que vous allez aimer la prière. Parce que l'onction et la prière sont associées. Vous verrez comme une perte de temps, vous allez vous ennuyer, vous allez vous dire « Oh là là, prier, j'ai pas envie de prier ». Ça va devenir secondaire. Et puis vous aurez toujours une excuse. Toujours une excuse pour ne pas prier. Il faut se poser la question, mais pourquoi est-ce que la prière est si lointaine? Pourquoi est-ce que je n'aime pas prier? Eh bien, avec l'onction, si vous avez le Saint-Esprit en vous, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez aspirer à la prière. Vous allez aimer la prière. Il y a quelque chose en vous qui va vous pousser à prier. Pierre et Jean, ils étaient dans l'onction du Saint-Esprit. C'est l'heure de la prière, il y a quelque chose qui les attire. Il y a quelque chose qui les pousse. Il faut qu'on aille prier. Il faut qu'on prenne du temps pour prier. Ils ont réalisé l'importance de la présence de Jésus. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit le Seigneur. » Quand vous êtes dans l'onction, vous réalisez cela. Vous développez une vie de prière personnelle. Ils priaient chacun pour eux. Ils priaient dans l'assemblée. Ici, c'est le temple. Mais c'est quelque chose qui les pousse. Et quand vous êtes dans l'onction, ben, vous mettrez toujours un rendez-vous avec Dieu. Parce que c'est tellement important. Vous l'avez saisi dans l'onction, et vous savez que la prière, c'est tellement important. Vous n'aurez même pas besoin qu'on vous dise « Allez, il faut que tu pries aujourd'hui », parce que ça deviendra quelque chose de tellement évident. C'est quelque chose qui est nécessaire. Et Pierre et Jean l'avaient saisi par l'esprit. Le deuxième élément que nous voyons dans ce texte, c'est que l'onction va vous conduire vers les bonnes personnes. Remarquez que c'est Pierre et Jean. C'est comme deux associés. Ils se sont associés. Pourquoi ces deux-là? Eh bien, en fait, ils ont été attirés l'un vers l'autre. Pourquoi? Parce que tous les deux étaient dans l'onction. Et quand vous êtes dans l'onction, vous allez être attirés par les bonnes personnes, les personnes qui vont vous élever, qui vont vous édifier, qui vont vous encourager. Avec l'onction, vous trouverez des soutiens. Pierre était un soutien pour Jean, Jean était un soutien pour Pierre. Et c'est les soutiens que Dieu veut. C'est-à-dire que dans l'onction, vous serez toujours conduit vers les bonnes personnes. Pierre et Jean. Pierre a été conduit vers Jean. Pierre et Jean se sont associés et ils étaient ensemble. Notez bien ce mot, ils étaient ensemble. Ensemble physiquement, mais ensemble dans le même esprit, dans la même onction, dans la même communion. Par contre, si vous êtes charnel, si vous ne développez pas de relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, immanquablement, vous serez attiré par des personnes charnelles. C'est comme ça. C'est un fait. Vous serez poussé à des mauvais choix. On le voit très bien dans la parole de Dieu avec un homme qui s'appelait Lot. Il était charnel. Il était en contact avec un homme qui s'appelait Abraham, mais ça n'a pas collé. Abraham était spirituel, il était rempli de Dieu, il aimait les choses de Dieu. Et à un moment donné, Lot et Abraham ne pouvaient plus rester ensemble. Et Lot était tellement attiré par les choses charnelles qu'il est allé vers Sodome et Gomorre. Une personne charnelle fait des choix charnels. Il a entraîné sa famille, sa femme était charnelle. Ses enfants, ses filles étaient charnelles. Si vous lisez cette histoire, tous y sont tombés. Sa femme est morte, transformée en statue de sel. Les filles ont mal tourné. Il y a eu beaucoup de dégâts dans cette famille. Tous les choix, les décisions qu'il a faites le poussaient dans la mauvaise direction. On a un exemple dans le premier livre des Rois, au chapitre 12. Le successeur de Salomon. Le successeur de Salomon, c'est-à-dire son fils, s'appelait Roboam. Et Roboam, donc il se retrouvait roi d'Israël après Salomon, il a convoqué tout Israël, il a donné des directives, et un homme qui s'appelait Jéroboam lui a dit « Allège la charge, allège-nous la charge, et nous te servirons toute la partie d'Israël au nord. » Et alors, Roboam, lui, il a consulté les anciens d'abord, qui lui ont dit « C'est un bon conseil, tu devrais alléger la charge du peuple. » Et puis ensuite, il a écouté les jeunes, des jeunes gens qui avaient grandi avec lui, des amis, mais qui étaient charnels, comme lui. Et ses amis, ses connaissances, il était attiré vers eux, lui ont dit « Mais n'allège pas la charge du peuple, au contraire, endurcis la charge et montre-leur que tu es plus fort. » Et il a préféré écouter ce conseil charnel plutôt que le conseil des anciens. Une personne charnelle, elle va écouter les conseils charnels. Et finalement, il a écouté ce conseil. Jéroboam s'est révolté, il y a eu la division dans le royaume. Donc il s'est retrouvé juste avec Judas et Benjamin. Et puis toutes les autres tribus se sont dissociées. Ça fait une division. Les conseils charnels aboutissent à des choix charnels qui font des catastrophes. Donc si vous êtes charnel, immanquablement, vous allez être attiré par des personnes charnelles et vous allez faire des choix charnels. Tandis que l'onction, ici on le voit, Pierre et Jean se sont associés parce que l'onction est en eux, ils font les bons choix. Pierre a trouvé Jean comme compagnon de prière, mais si vous regardez Paul, il a trouvé Timothée. Timothée, ça va être un compagnon d'œuvre. David, il avait trouvé Jonathan. Jonathan, c'était une amitié fraternelle. Naomi, elle a trouvé Ruth, c'était un soutien dans son veuvage, et on peut multiplier les exemples. Si vous êtes seul, priez pour être rempli du Saint-Esprit afin d'être conduit vers la bonne personne et de ne pas faire un choix charnel. L'onction vous conduira. L'onction a conduit Pierre vers Jean, a conduit Jean vers Pierre, et ils se sont retrouvés. Troisième élément, c'est au verset 6. Une onction qui vous donne quelque chose de plus. Acte 3, verset 6. Alors Pierre dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Les apôtres n'avaient pas de grandes fortunes. Ils étaient financièrement limités, mais ils avaient quelque chose de plus que nous avons aussi, frères et sœurs, c'est la présence de Jésus en nous. Ils avaient quelque chose dans leur cœur. Paul dit, Colossiens 1, 27, « Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Voilà ce que nous avons, frères et sœurs. Et souvent, nous le négligeons, parce que nous regardons à l'or et à l'argent, et nous disons, « Je n'ai ni argent ni or. » Mais nous oublions la suite. Mais ce que j'ai, nous n'avons peut-être pas des grands biens ou des grands moyens, mais nous avons quelque chose de plus que le monde n'a pas. C'est le Seigneur. Il ne faut pas oublier cette dernière partie. Ce que j'ai, je te le donne. Les vraies valeurs des chrétiens sont différentes de celles du monde. Le monde s'intéresse à la première partie. Il s'intéresse à l'argent. Le monde cherche l'argent. Il cherche l'or. Il cherche les biens matériels, le confort. Il cherche le bonheur dans les biens périssables. Or, nous l'avons saisi, et c'est uniquement par l'esprit que vous pouvez le saisir, c'est que le bonheur ne peut pas se trouver dans les biens matériels, mais il est dans la présence de Dieu et dans les biens spirituels. C'est quelque chose de spirituel. Votre bonheur est là. Si votre bonheur est dans les biens terrestres, il y a une erreur. Il y a une erreur quelque part. Vous ne pouvez pas être dans l'onction. J'ai entendu cette anecdote d'un homme très riche qui était sur le point de mourir. Et comme il allait mourir, il a réuni, donc il y avait sa femme, il y avait sa famille et tous ses amis, et il donnait ses dernières paroles. Et il a demandé à sa femme, « Chérie, quand je vais mourir, enterre-moi avec toute ma fortune. » Et puis, il dit, mais promets-le-moi devant l'assistance. Et puis la femme lui a promis, d'accord chérie, je t'enterrerai avec toute ta fortune. Et puis il est parti. Il est décédé. Et suite à son décès, elle est allée à la banque. Et il avait une fortune, mais colossale. Il était très riche. Beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup d'or. Elle a fait le compte de ce que ça représentait, une très grosse somme. Et puis arrive le jour de l'enterrement, et les gens se demandaient, mais comment elle va faire pour mettre tout cet or, tout cet argent dans le cercueil, enfin, dans le tombeau? C'est pas possible. Comment elle va faire? Et puis, ils ne voyaient pas autour d'elle quoi que ce soit. Alors, au moment où on avait mis le cercueil dans le tombeau, elle a sorti de son sac un chèque avec le montant de la fortune de son mari, et elle l'a mis sur le cercueil et elle a dit « promesse tenue ». On ne peut pas partir avec son or et son argent. On laissera tout. Les gens qui ont tout misé sur l'or et sur l'argent, ils laisseront tout derrière eux. La Bible dit « là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Si votre trésor, il est là, sur l'or et l'argent, ben, votre bonheur, il est mortel, il disparaîtra, il n'aboutira pas. Mais si votre trésor, il est en Christ, alors vous avez quelque chose de plus. C'est par l'onction qu'ils disent, ce que j'ai, je te le donne. Vous l'avez par la foi, vous l'avez dans l'onction. Si vous ne l'avez pas, c'est que votre cœur est ailleurs, c'est que votre trésor est ailleurs. Mais Pierre et Jean, ils avaient fait leur choix, et le vrai trésor, c'est la présence de Jésus. Si vous avez Jésus, en fait, vous avez tout. Peut-être on va vous prendre vos biens, on va vous prendre votre maison, on peut même vous prendre votre vie dans certains cas extrêmes. Mais le trésor que vous avez, il n'y a personne qui peut l'enlever parce qu'il est attaché à votre cœur, c'est votre espérance, c'est le Christ Jésus. Pour eux, c'était comme ça. Les premiers chrétiens, ils avaient Christ. Christ en eux, c'était tout. C'est-à-dire, ils savaient qu'ils pouvaient perdre la vie, ils savaient qu'ils pouvaient perdre, être persécutés, perdre tout. Mais Christ, ils ne pouvaient pas le perdre, il était dans leur cœur. Quand vous avez l'onction, vous pouvez donner quelque chose à quelqu'un. Quand vous avez l'onction. Ce que j'ai, je te le donne. Donc vous pouvez transmettre une parole de Dieu, transmettre une espérance. Ici, c'est transmettre une guérison. Le monde a besoin, en fait, de voir non pas des religions, mais de voir des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, remplis de l'onction. Parce que ce boiteux, ce qu'il a touché, c'est la parole de Pierre, ce que j'ai, je te le donne. C'était différent, parce que lui s'attendait toujours à de l'argent, à de l'or. Mais il ne réalisait pas qu'il pouvait obtenir plus, la guérison de sa maladie. Et ce que le monde a besoin, c'est cela, de voir des chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit. Le monde est déçu de la religion, il est déçu de toutes les apparences. Ce qu'ils veulent, c'est du concret. Quatrième point, c'est au verset 12. C'est une onction qui vous rend humble. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme ?» Ça, ça montre de l'humilité. Ils ont l'onction, ils viennent de faire une guérison dans le nom de Jésus, mais ils restent petits, ils restent humbles. Après la guérison d'un boiteux, vous voyez, ça aurait été facile de dire « c'est moi qui ai l'onction, venez à moi, vous allez être guéri, venez » et puis installer un stand de guérisseur. Voyez. Il aurait pu basculer dans une sorte d'orgueil. Et il faut bien gérer les victoires et les bénédictions quand on est en Christ. Parce qu'on connaît des exemples de chrétiens qui ont basculé parce qu'ils n'ont pas su gérer le succès. Alors ils deviennent orgueilleux. Mais quand vous devenez orgueilleux, l'onction vous quitte. C'est arrivé à certains. Pierre et Jean, eux, ont su rester humbles. Ils ont tout de suite dit non, non. Ce n'est pas par notre puissance ou notre piété. L'onction vous fait dépendre entièrement de Dieu. Vous savez que ce n'est pas vous. Vous savez que c'est l'Esprit de Dieu en vous. Vous savez que c'est Christ en vous qui fait l'œuvre. Et ils ne veulent pas la gloire des hommes. Mais quand vous devenez orgueilleux, ben, vous finissez par perdre l'onction. Saül était humble. Il était humble. Il était au début, quand il a été choisi, il se cachait, il ne voulait pas, il se sentait trop petit. Et puis Dieu l'a oint, il a eu l'onction. Mais à un moment donné, il est devenu orgueilleux. Il a eu des succès, Saül. Il a remporté de grandes victoires contre les Philistins. Il était utilisé par Dieu. On peut dire que la première partie de son service a été bénie. Mais il est devenu orgueilleux. À un moment donné, il s'est dit, je vais offrir moi-même un sacrifice. Mais un roi n'a pas le droit d'offrir un sacrifice. Il s'est dit, je vais offrir un sacrifice. Samuel tarde à venir, je vais offrir le sacrifice. Il n'avait pas le droit de le faire. Il a désobéi, mais il était devenu fier, il était devenu orgueilleux. Et le prophète lui dit dans 1 Samuel 15, 17, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, lorsqu'il était petit à ses yeux, il était humble, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël ?» Eh oui, il avait connu ses temps sous l'onction, il n'a pas su gérer les succès, il est tombé dans l'orgueil, il n'est pas resté humble. Mais si vous restez près du Seigneur, si vous restez en communion avec lui, vous resterez humble, même sous l'onction. Et si vous désobéissez, vous perdrez l'onction, vous deviendrez orgueilleux. Un cinquième exemple, c'est au chapitre 3 et au verset 14, c'est l'onction qui vous fait élever le nom de Jésus. Verset 14, donc c'est toujours la suite du récit. Vous avez, il dit aux Juifs qui sont là pour l'entourer, vous avez renié le saint et le juste. Il parle de Jésus, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et que vous connaissez. C'est par la foi en lui qui a donné à cet homme, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Qu'est-ce que Pierre fait ? Il est en train d'élever le nom de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il est dans l'onction. Et l'onction va vous amener à l'adoration. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, proche du Seigneur, vous serez poussé. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Jésus, c'est le Saint, c'est le Juste, c'est le Prince de la vie. En fait, vous allez élever et célébrer le nom du Seigneur. Sans l'onction, l'adoration... Souvent, on passe à côté, on pense à autre chose, on pense, oh là là, après le culte, il faut que je prépare ci, il faut que je fasse telle chose, et on est complètement à côté. Mais quand vous êtes dans l'onction, vous êtes en osmose avec Dieu, et vous êtes dans l'adoration, vous élevez le nom de Jésus. Alors c'est vrai que c'est facile, vous allez dire peut-être après une guérison, c'est facile d'être dans l'adoration. Parce que là, il y a un boiteux qui vient d'être guéri, donc merci Seigneur, et c'est toujours plus facile de louer le Seigneur quand tout va bien. Quand on a prié et que la porte s'ouvre, quand on était en difficulté, Dieu a aplani, alléluia, il y a la louange qui vient. Mais je remarque un petit peu plus loin que ces apôtres persécutés, les mêmes qui louent ici, au chapitre 3, ils louent après une guérison, ils élèvent le nom de Jésus, acte 5, 41, alors qu'ils sont battus, alors qu'on leur interdit de parler du nom de Jésus, la Bible dit, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux, d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce qu'on peut être joyeux de subir des outrages ? On a reçu des coups de bâton. On nous empêche de parler du nom de Jésus. Est-ce qu'on peut être joyeux ? C'est uniquement quand vous êtes dans l'onction que vous pouvez vous réjouir dans des situations pareilles. Sinon, vous ne pouvez pas vous réjouir. Vous allez vous plaindre, vous allez vous dire « c'est pas normal, ce que je vis, c'est pas normal ». Dieu m'a abandonné, le Seigneur ne m'aime pas, je n'ai que de difficultés. Vous n'arriverez pas à louer le Seigneur. Mais parce qu'ils sont dans l'onction du Saint-Esprit, eh bien, l'onction vous amènera à louer Dieu quand tout va bien et à louer Dieu quand tout va mal. Même dans les situations défavorables, on a appris ceci lorsque mon épouse est tombée malade, elle est passée par plusieurs maladies différentes qui ont duré très longtemps. Et les années passant, on était assez découragés parce qu'il n'y avait pas d'amélioration. Ça a duré déjà pendant 2 ans. On priait avec l'Église. Il y avait toujours ces maladies, spondylarthrite ankylosante, maladie de Bessette et encore une autre maladie qui se greffait ensemble. Elle prenait tous les jours de la drogue. Pas d'amélioration pendant 2 ans. On était bien affectés. Et à ce moment-là, le Seigneur nous a dit, mais louez-moi pour la guérison. Alors, on a commencé à louer pour la guérison. Gloire à Dieu, le Seigneur va agir, il va la guérir. Sauf qu'il n'y a rien qui changeait, mais simplement, on a loué Dieu pour la guérison. On a loué une journée, deux journées, trois jours, quatre jours. Une semaine, rien changeait. Un mois, rien changeait. Ça devenait difficile. Parce que c'est plus facile de louer Dieu quand on voit des choses que quand on ne voit rien. Surtout quand vous voyez les choses qui se dégradent. Mais on a appris à louer Dieu comme ça pendant une année entière. Une année entière. Merci Seigneur pour la guérison. Tu agis, tu es là. Gloire à Dieu. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Jusqu'au jour où le Seigneur a agi dans sa grâce et sa puissance pour la guérir du jour au lendemain. Mais on a appris à louer quand tout va mal. On a appris à louer alors que la situation est défavorable. On a appris à louer alors qu'il n'y a aucun indice que ça va s'améliorer. Et c'est ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers sa parole. Quand vous êtes dans l'onction, vous allez apprendre à louer Dieu quand tout va bien, mais vous allez apprendre aussi à louer Dieu quand tout est défavorable. Et qu'est-ce que vous allez faire quand tout est défavorable? Vous allez élever le nom de Jésus, même si le géant en face est plus grand que vous. Un peu comme David contre Goliath. David, il n'a pas hésité, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a élevé le nom de Jésus face à Goliath. Il a élevé le nom de l'Éternel. Il était plus petit. Il était deux fois plus petit. Il était beaucoup moins fort. Mais sur le champ de bataille, il dit, c'est au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté que je viens. Au nom. Et en élevant le nom de Jésus, il est dans l'onction, il remporte la victoire. La victoire est là. Quand nous sommes dans l'onction, les géants ne vous feront pas peur. Paul écrit, c'est pourquoi, Philippiens 2:9, Dieu l'a souverainement élevé. Voilà comment est notre Seigneur. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Qu'est-ce que Paul fait ici? Il élève le nom de Jésus. Quand vous êtes dans l'onction, c'est ce qui va se passer. Vous allez élever le nom de Jésus. Et tous ceux qui vivent sous l'onction ont compris ce principe. C'est que la louange, l'adoration, ce n'est pas juste pour passer du temps, ce n'est pas juste pour un bon moment où on est ensemble, mais c'est pour élever le nom de Jésus. On le met au-dessus de tout nom. Il règne dans l'univers, sur notre vie. Le principe est le suivant, c'est que la louange qui élève le nom de Jésus ne doit pas dépendre des circonstances, mais elle dépend de notre relation avec Dieu. Si nous avons toujours une relation avec Dieu, une relation profonde, alors nous élèverons le nom de Jésus. Actes chapitre 5, verset 1, un petit peu plus loin, toujours Pierre. Ici, une onction qui vous permet d'exercer les dons spirituels. Il y avait un homme nommé Ananias, avec sa femme Saphira, qui vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis, il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit que tu as retenu une partie du champ? S'il n'avait pas été vendu, il ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre dans ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelit. Alors on retrouve ici Pierre dans l'église de Jérusalem. Il y a Ananias et Saphira, c'est un couple de l'église. Et ce sont des chrétiens. Ils viennent là tous les dimanches, ils sont là dans la louange, ils sont là dans la prière. Ce sont des chrétiens comme les autres, ils apportent leurs offrandes. Sauf que ça c'est la façade et en réalité ils vivent dans un mensonge. Ils ont tramé un mensonge. Ils font croire quelque chose qui est faux. Et quand vous mentez, en fait, quand vous péchez, vous ouvrez une porte au diable. C'est ce qui s'est passé pour Ananias et Saphira. C'est ce qui s'est passé pour Judas. Judas, il volait, lui, il volait dans la caisse. Il était disciple du Seigneur, mais il volait de l'argent. Personne ne le savait, personne ne le voyait, mais il avait ouvert une porte. Et c'est pourquoi que la Bible dit que Satan mit dans la pensée de Judas l'idée de livrer Jésus. Évidemment, quand vous êtes dans le péché, un péché dissimulé, que ce soit le mensonge, le vol, toutes sortes de péchés, eh bien forcément l'ennemi va vous mettre des pensées dans l'esprit, des mauvaises pensées. Et Judas, non seulement il a eu cette pensée, mais en plus le texte dit qu'il, Satan rentra dans son cœur. À un moment donné, il a tellement laissé l'accès au malin que l'ennemi l'a dirigé pour livrer Jésus. Ananias et Saphira, c'est pareil, ils étaient chrétiens dans l'Église, mais ils ont un péché dissimulé, une double vie. Il y a certains chrétiens qui vivent une double vie, c'est-à-dire ils sont là le chrétien le dimanche, mais la semaine, ils vivent carrément autrement. Ils sont loin du Seigneur, ils ont un comportement qui n'est pas de Dieu et ils font des compromis graves. Donc Dieu le voit et à un moment donné, Dieu sanctionne. C'est arrivé à David, on connaît son histoire. Lui, il continue à faire le roi, il continue à faire comme si de rien n'était, il allait au temple. Mais en réalité, il était dans l'adultère. Il était dans l'adultère. Il était avec Bathsheba. Et il a été sanctionné, le prophète Nathan est venu vers lui. La particularité, en fait, la grande différence entre David et Ananias et Saphira, c'est que David, tout de suite, il s'est repenti de son péché. C'est écrit dans 2 Samuel 12, verset 13, David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Voilà. Il a confessé son péché, il a reconnu son péché, il a demandé pardon pour son péché. Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » Mais notez bien, « tu ne mourras point », ça veut dire que si David n'avait pas confessé son péché, ce qu'il attendait, c'était la mort. « Tu ne mourras point, pourquoi ? Tu as confessé ton péché et tu as reçu le pardon. » Ananias et Saphira, c'est différent. Il n'est pas dit qu'ils ont reconnu leur péché. Ils n'ont pas confessé leur péché. Ils n'ont pas demandé pardon à Dieu. Ils ont été sanctionnés. Dieu les a repris. Comment Pierre pouvait-il connaître le mensonge d'Ananias et Saphira? Parce que quand Pierre voyait Ananias et Saphira, il voyait un frère et une sœur. Comment il pouvait savoir? Eh bien, je dirais qu'humainement, il était incapable de le savoir, mais c'est par l'onction du Saint-Esprit sur lui qu'il a reçu une parole de connaissance les concernant, qui était « Vous avez menti au Saint-Esprit. Vous avez trompé sur la somme que vous avez donnée. » C'est quelque chose qui vous vient quand vous êtes dans l'onction. Vous ne pouvez pas savoir avec qui vous traitez. Quand vous faites une affaire, vous ne savez pas qui est l'autre. Mais l'onction peut vous donner une révélation. J'ai vécu cette expérience alors que j'amenais ma voiture au garage, il y a quelques années de cela. Et le garagiste avait donc, à mon retour, c'était pour une révision, à mon retour, il me dit « Oh là là, vous ne pouvez pas partir avec cette voiture, il faut changer les plaques de frein, les disques de frein et les plaquettes. Elles sont complètement usées, vous ne pouvez pas partir comme ça. » Et il me les montre. Et comme moi, je ne m'y connais pas. Et en même temps où il me dit ça, j'ai cette forte pensée en moi qui me dit « cet homme te ment », comme ça. Et j'étais perturbé parce que j'entendais le garagiste qui m'expliquait le bien fondé qu'il fallait les changer tout de suite. Et en plus, il avait les pièces, il pouvait le faire là. Et en même temps, j'avais cette pensée-là. Et vous savez, ça, c'est un peu perturbant. Et finalement, j'ai dit « écoutez, merci, remontez-moi les roues, je vais partir avec ma voiture. » « Mais monsieur, vous ne pouvez pas faire ça, c'est dangereux et tout. » Je fais quand même. J'ai fait ça et j'étais très travaillé par ça. Je suis allé voir un autre garagiste et je lui ai demandé de regarder mes disques et mes plaques de frein. Mais il m'a dit « Mais monsieur, vous pouvez faire encore 20 000 km, il n'y a pas de problème, ils sont en très bon état. » Cet homme, il mentait. Mais comment vouliez-vous que je le sache? Comment voulez-vous le savoir? Vous ne pouvez pas le savoir. Mais quand l'onction vous saisit, vous avez des révélations. C'est l'onction. L'onction. Et quand je parle de l'onction, je dis que l'onction, ce n'est pas seulement dans des rassemblements comme ça. Ça peut arriver chez vous, ça peut arriver au travail, ça peut arriver chez le garagiste. Quand l'onction vous saisit, vous avez des révélations de la part de Dieu. Septième point, une onction qui vous permet d'avoir des visions, c'est dans Actes 10, verset 11, toujours dans la vie de Pierre. Il était là sur son toit. Il était dans un temps de prière et il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et qui s'abaissait vers la terre. Là encore, on trouve Pierre qui vit sous l'onction. Il est dans l'onction du Saint-Esprit. Il se sent poussé à aller prier. On a dit tout à l'heure, l'onction vous pousse à la prière. C'était midi. Ce n'est pas un horaire habituel. Mais l'onction le pousse à avoir un cœur à cœur avec Dieu. Et alors qu'il est là dans la prière, tout d'un coup, il a une vision. Mais en fait, cette vision, si vous l'analysez, c'est un tournant complet dans la vie de Pierre. C'est comme un virage à 90 degrés. Parce que jusqu'à maintenant, pour Pierre, ne pouvaient être chrétiens que des Juifs. Jésus était venu pour les Juifs. Et il annonçait l'évangile aux Juifs. Et à partir de cette vision, en fait, il va faire un virage à 90 degrés. Il a compris qu'on peut prêcher l'évangile aux non-Juifs. Mais jusqu'à là, il n'avait pas saisi. Sa vision était très, très, très limitée. Et en fait, cette vision lui apprend quelque chose de nouveau. Mais voyez, l'onction, c'est ça aussi. L'onction va permettre que votre cœur va être enseignable. Acte 10, 28, Pierre dit, « Vous savez, dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris. » Il lui a appris quelque chose. « Ne pas regarder un homme comme souillé et impur. » Voilà l'onction. L'onction vous apprend quelque chose. En fait, quand vous n'êtes pas sous l'onction, vous savez déjà, vous pensez que vous savez déjà. C'est là qu'on devient orgueilleux. Mais comme Pierre est sous l'onction, il est prêt à apprendre de nouvelles choses de la part du Saint-Esprit. Écoutez Dieu. Captez les vérités spirituelles. En fait, sous l'onction, il a capté des vérités spirituelles qu'il n'a jamais saisies auparavant. Elles étaient là. Il y a des vérités qui sont dans la parole, on ne les a jamais saisies. Mais vous êtes sous l'onction, vous saisissez spirituellement. Huitième élément, c'est au verset 19. Comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, voici trois hommes te demandent. Sous l'onction, il entend les directives du Saint-Esprit. Pierre était perplexe, il se dit, oh là là, une nappe avec des animaux impurs, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, la Bible dit, il ne savait que penser de la vision, il réfléchissait à la vision. Donc il avait besoin d'un élément supplémentaire, parce que la réflexion humaine ne sera pas suffisante. Et c'est par l'Esprit qu'il a la révélation. L'onction, en fait, lui fait comprendre la vision. Et c'est là qu'il entend la voix de l'Esprit. L'Esprit lui dit, ça va confirmer la vision, trois hommes te demandent, c'est précis. Pars avec eux sans hésiter, c'est la direction pour toi. Et puis le plan, c'est moi qui les ai envoyés, fais confiance. S'il n'avait pas eu ces éléments, il était perplexe. Mais quand vous avez la vision, l'Esprit n'est pas loin pour confirmer la vision et vous donner les directives. Sans l'onction, je dirais que vous n'avez pas de directive. Vous ne pouvez pas entendre l'Esprit. Vous allez prendre des décisions un petit peu au hasard, des choix plus ou moins heureux. Sans l'onction, vous allez viser sur l'apparence. Regardez Samuel, pourtant c'est un prophète, hein, il est vraiment serviteur de Dieu, il aime Dieu. Mais quand il a fallu choisir le roi d'Israël, il allait choisir Éliab. Si l'Esprit ne l'avait pas saisi à ce moment-là, il allait oindre Éliab comme roi au lieu de David. Mais il a été arrêté parce qu'il était dans l'onction. Et l'Esprit lui parle et lui dit non, ne oint pas celui-ci, fais passer au suivant. Et il a passé tous les fils jusqu'à David. Et quand c'était David, c'est lui. L'onction vous donne des directives. Un dernier point, c'est le verset 44, chapitre 10. L'onction qui attire la présence de Dieu, comme Pierre prononçait encore ces mots. Donc il est allé prêcher chez Corneille sous la directive de l'Esprit. Donc Corneille, c'est un païen. Il a compris qu'il peut entrer chez un païen à annoncer l'Évangile. Il prononce encore ces mots. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. On voit ici que l'onction attire la présence du Saint-Esprit. Pierre annonce le message de l'Évangile. D'abord, il parle de Jésus, Jésus qui est venu. Notez bien que dans le message de Pierre, il parle de l'onction de Jésus aussi. Il dit, c'est lui que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth. Il parle de la croix, de la résurrection. En fait, il est en train d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Ils ne s'attendent pas du tout à ce que l'Esprit vienne ici. Mais comme il vit une telle communion avec l'Esprit, l'onction et l'Esprit sont attirés et l'Esprit vient et remplit tout l'auditoire du Saint-Esprit. Pierre même était tellement surpris, il est dit qu'ils furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, quand vous êtes sous l'onction, Dieu va bousculer vos plans. Vous avez prévu quelque chose, Pierre avait prévu quelque chose, il avait prévu un message peut-être avec appel au salut, repentance et tout. Mais en fait, en réalité, par l'onction, Dieu a bousculé ses plans et la réunion a tourné autrement. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Pierre n'avait même pas pensé que c'était possible. Mais dans l'onction, il vit des choses extraordinaires. Et puis à la fin, il baptise Corneille et sa famille. On va prier quelques instants. Je vais inviter Valérie à venir. On va prendre ce cantique. Nous avons soif de ta présence dans un instant. Mais Pierre a connu l'onction. Et je dirais que cette même onction qu'il a connue, elle est pour nous aujourd'hui. Parce que c'est le même esprit. Le même esprit qui a ressuscité Christ, qui est répandu encore sur l'Église. Pierre simplement nous laisse un exemple d'une personne qui est remplie du Saint-Esprit, qui aime Dieu, qui a mis Jésus à la première place dans sa vie, qui a cherché la vie de l'Esprit. Il n'a pas cherché son intérêt, il est resté humble. Il n'a pas cherché la popularité, il a cherché la gloire de Dieu. Je dirais que la même onction est pour nous aujourd'hui. Si nous ouvrons nos cœurs, si nous avons soif, si nous cherchons l'Esprit, si nous cherchons la présence de Dieu, eh bien, il peut nous remplir de sa présence, de son onction et nous utiliser selon ses plans, ses projets. Merci pour ton onction, ta sainte onction, que tu désires encore verser sur ton Église, que tu désires encore verser sur ton peuple, afin que nous soyons des témoins efficaces de ta gloire, de ta puissance, de ta majesté. Seigneur, nous croyons que ces temps de visitation sont encore pour nous aujourd'hui, que tu as encore des promesses pour chacun de nous, que tu désires que nous nous approchions encore davantage de toi, que nous soyons encore davantage sensibles à ton esprit, à ta voix. Oui, Saint-Esprit, viens sur nous, descends ce matin et remplis-nous de cette sainte onction afin de vivre des temps bénis, des temps où nous pouvons vivre, Seigneur, des grâces et des bénédictions dans ta présence. Dans le nom de Jésus, amen. Que le Seigneur vous bénisse.